Vous écoutez, on lit pour vous.
Conduire comme une femme. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 27 mai 2024 dans Le Devoir. Dans les livres de Jack Kerouac, il se trouve des scènes croquées sur des routes où toute la fragilité de la vie s'expose tandis que des personnages solitaires et blessés se heurtent à de vastes espaces ouverts sur les plaines ou les montagnes dans une vision embrouillée de l'Amérique qui renoue avec l'identité incertaine et douloureuse des coureurs des bois, moitié nomades, moitié vagabonds. Nuits étoilées, lunes en demi-banane, soleil plombant, pluie fine ou neige lourde. Le conducteur derrière le pare-brise apparaît toujours comme une sorte d'insecte qui, mal assuré de son existence, volant entre les mains, ouvre la bouche pour parler et avaler les kilomètres autant que les ennuis de sa vie. Toute l'œuvre formidable de Kerouac, ce Canadien français qui compte parmi les plus grands écrivains des États-Unis, est ponctuée d'histoires de chauffards à moitié sous qui conduisent sans même se soucier de posséder un permis de conduire. Dans « Sur la route », Kerouac donne à voir d'innombrables scènes du genre. Un jour, il monte à bord de la voiture toute neuve d'un musicien de Los Angeles. « Je ne bois pas quand je conduis », déclare celui-ci, tout en buvant. La place de l'auto dans l'imaginaire des hommes se traduit dans leur littérature, dans leur art. Une automobile rugissante qui a l'air de courir sur de la mitraille est plus belle que la victoire de Samothrace, écrit Gabriele D'Annunzio, un des pères du fascisme. Avant la guerre, le poète Alain Grandbois, fils d'un marchand de bois de Saint-Casimir de Portneuf, fait la course le long de la Méditerranée au volant d'une puissante Bugatti. Le peintre Jean-Paul Riopel achète pour sa part deux Bugatti. L'une fut vendue en 2003 au géant du fromage Lino Saputo pour la somme de 245 000 $. Du petit lait équivalent cette année à 385 000 $. À Montréal, Hubert Aquin se fait le premier promoteur du Grand Prix de Formule 1. Il sera arrêté alors qu'il prenait place dans une voiture volée. Dans prochain épisode, il se voyait en suicidé dans une auto broyée. Histoire sanglante, triste et folle que celle des hommes au volant de leur auto. Victor Lévy-Beaulieu, derrière le volant de son immense décapotable américaine, je me souviens de l'avoir vu heureux du sentiment d'être là-dedans aussi gros et mystérieux que Moby Dick. Il y a quelque temps, notre écrivain le plus balzacien a vendu sa Morgan, comme l'ont rapporté les médias, une puissante voiture britannique fabriquée à la main. L'acteur Jean Renaud, célèbre pour Le Grand Bleu, ce film où il plonge dans le creux avec ses allures de faux commandant Cousteau, a expliqué récemment devant la caméra pourquoi il avait acheté une Ferrari. Il voyait dans ce tas de tôles colorées une œuvre d'art. Il avait déchanté quand un Johnny Hallyday blasé lui avait dit, non sans un certain mépris, en avoir possédé sept. Considérez la multitude de vidéos que le spéculateur immobilier Luc Poirier ne cesse de diffuser à propos de ses voitures. Après s'être vanté d'avoir réalisé une transaction historique en vendant un terrain à la compagnie Nordvolt pour 240 millions, il ne cesse depuis de montrer ses nouvelles Ferrari à tout venant. Une orgie de tôle et d'huile à moteur peut-elle donner de l'épaisseur à une société réduite aux simples dimensions d'un jeu de Monopoly? En 2023, François Legault avait choisi de couronner devant un Hummer électrique le supposé virage écologique du Québec. En matière de symboles de consommation à outrance et de gaspillage, on ne pouvait pas faire mieux. En 2022, selon les derniers chiffres disponibles par l'entremise de la Société de l'assurance automobile du Québec, 80 464 hommes ont été impliqués dans des accidents de la route. Combien de femmes pour la même période? Pas loin de la moitié moins. Je vous entends me dire d'un air suspicieux, « Oui, mais il y a plus d'hommes qui conduisent. » Faux! c'est pratiquement la même chose. Près de 2,8 millions de conductrices et de 2,9 millions de conducteurs. Seule différence peut-être, les femmes conduisent un peu moins régulièrement que les hommes. Des données analysées par le scientifique en chef du Québec montrent que les trois quarts des contrevenants pour la conduite avec faculté affaiblie sont des hommes. Ce sont eux encore qui commettent le plus d'excès de vitesse. Au tableau final, les accidents impliquant des conducteurs masculins sont d'ordinaire plus graves que ceux impliquant des conductrices. Aux États-Unis, des études constatent aussi que les hommes se livrent plus volontiers à des pratiques de conduite à risque. Ne pas porter sa ceinture de sécurité, par exemple, à la manière de la ministre Geneviève Guilbeault chez nous. En France, les constats sont du même ordre. Sur 10 jeunes conducteurs tués sur la route, 9 sont des hommes. Les conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident sont pratiquement tous des hommes. L'immense majorité des permis invalidés sont aussi ceux d'hommes. Pour déboulonner le mythe sexiste de la conduite comme attribut viril, une campagne de publicité vient d'être lancée en France. L'Association de prévention routière, Victimes et citoyens, martèle à raison ceci dans ses publicités. Conduisez comme une femme. La culture du char, imprégnée de virilité masculine à l'ancienne, amplifie les logiques de pouvoir, de compétition et de consumérisme effrénées propres aux politiques néolibérales qui avalent notre monde. La présence des femmes dans ce manège ne change rien du moment que, parvenues au pouvoir, elles entendent manifestement se conduire de la même manière que les hommes. La ministre Guilbeault, quand elle affirme vouloir gérer les routes et les autos avant le transport collectif, en offre un triste exemple. Peut-on penser qu'il en ira de même avec ces « Top Gun » venus du privé que sont Geneviève Biron et Christine Germain, désormais toutes occupées qu'elles sont à accroître la performance du système de santé, comme s'il s'agissait au fond d'optimiser le rendement d'un moteur qui ne tourne pas rond? Il est difficile, en société, de considérer que ce sont parfois les véhicules que nous empruntons qui nous font reculer. C'était « Conduire comme une femme », un texte de Jean-François Nadeau, paru le 27 mai 2024 dans Le Devoir.
Envie de courir? Lancez-vous! Un texte de Pascal Milano, paru le 15 juin 2024 dans La Presse. Vous regardez dehors et vous songez à commencer le jogging ou à passer à la prochaine étape avec des entraînements plus longs et plus intenses. Voici quelques trucs pour vous lancer sans vous décourager. Cette fois, vous vous promettez que c'est la bonne. Vous êtes bien décidé à faire les quelques pas jusqu'à votre entrée, ouvrir la porte et commencer à courir sérieusement. Félicitations, mais pas si vite. Une bonne préparation est incontournable pour éviter les blessures ou une démoralisation trop rapide. Pour ce tout premier entraînement, il est ainsi conseillé de travailler avec des fractionnés, c'est-à-dire en alternant les périodes de course et de marche. Un exemple. 3 répétitions d'une minute de course suivies d'une minute de marche. Le tout accompagné d'un échauffement et d'un retour au calme. On peut avoir l'impression que ce n'est pas beaucoup, mais 20 minutes, c'est 1800 sauts sur une jambe et 1800 sauts sur l'autre. C'est un exercice extrêmement exigeant pour les tendons et les tissus quand tu ne l'as jamais fait. Rappel, Blaise Dubois, physiothérapeute et fondateur de la Clinique du coureur. Pas question donc de se lancer dans de grandes chevauchées ou de s'imaginer courir un demi-marathon tout de suite. La clé, c'est la progressivité dans les distances parcourues et dans le volume d'entraînement. On peut se fixer une course de 5 km comme premier grand objectif. Ce qui arrive, c'est que les gens vont y aller à fond initialement. Ça va bien, ils continuent, puis ils se blessent. Illustre Olivier Lavoie, entraîneur-chef de l'équipe d'athlétisme des Carabins de l'Université de Montréal. On devient sédentaire et on n'avance pas. L'effet cumulatif, c'est super important. C'est préférable d'en faire un petit peu pendant longtemps que beaucoup d'un coup, puis d'arrêter. Règle générale, les programmes d'entraînement préconisent de faire 4 entraînements par semaine, au minimum, d'une durée ne dépassant pas les 30 minutes. Sur le plan de l'équipement, il est primordial de s'équiper de chaussures adéquates. Le choix peut être difficile devant la montagne de souliers aux couleurs improbables, dotées de technologies au nom intimidant. Les débutants devraient avant tout miser sur la simplicité, selon Blaise Dubois, afin d'éviter le risque de blessures et les mauvaises habitudes. Le débutant devrait choisir une chaussure la plus près du sol, avec le moins d'élévation au talon. « drop » en anglais, et le moins de technologie. On sait que plus la chaussure est grosse, épaisse et lourde, plus il va y avoir une altération de la technique de course. Le coureur va alors faire de grands pas et attaquer fortement du talon. Cela augmente ses forces d'impact et il va développer des techniques qui ne sont pas protectrices. Justement, doit-on travailler la technique dès les premiers mois? La priorité est de bâtir son cardio, même si quelques aspects biomécaniques sont pertinents à intégrer dès les premières semaines. Le plus important, faire de petites foulées avec une cadence de course comprise entre 170 et 190 pas par minute. Essayez alors de faire le moins de bruit possible lors de la pose des pieds au sol. 4 clés pour bien démarrer. Courir 4 fois par semaine au minimum. Respecter une progression pour que son corps s'adapte. Choisir des chaussures minimalistes. Faire des petits pas avec le moins de bruit possible. Et maintenant, se dépasser. Vous êtes capable de courir 30 minutes d'affilée? Vous rêvez d'aller au-delà des 5 km tout en augmentant votre allure? Il est maintenant temps d'être plus ambitieux avec, au menu, des entraînements plus intenses et plus longs. Pour un demi-marathon, les programmes préconisent une préparation comprise entre 12 et 18 semaines avec 5 séances hebdomadaires. On pourrait commencer à avoir plus de vitesse lors des intervalles. Ce pourrait être des fractionnés avec une minute rapide et une minute plus lente. On peut varier l'entraînement, indique Blaise Dubois. Souvent, on va aussi ajouter une longue sortie le week-end. Si la personne se prépare pour un 10 km ou un demi-marathon, on va augmenter la distance pour que son corps s'habitue à faire de la course plus longtemps. La variété est aussi le mot d'ordre pour Olivier Lavoie. Fartlek, changement de vitesse en fonction de ses sensations ou du terrain. Intervalle, course longue. C'est aussi à ce moment-là qu'il aborde la préparation physique. On pourrait incorporer de la musculation pour optimiser nos capacités physiques et être dans la prévention de blessures. À ce chapitre, il est important de varier les surfaces sur lesquelles on court et de ne pas se limiter au trottoir. Cela peut être sur de l'asphalte, une piste, de la terre battue ou des chemins de gravier. On s'assure d'avoir des stress qui sont différents, résume Olivier Lavoie. De semaine en semaine, il est généralement convenu que la hausse du volume ne doit pas dépasser 10 %. Une semaine avec 40 km au compteur devrait être suivie d'une autre semaine avec 44 km maximum. Il n'y a en fait aucune étude scientifique venant appuyer ce chiffre, même si la prudence est parfaitement justifiée, surtout quand on fait déjà un certain kilométrage. Gare au surentraînement, prévient d'ailleurs Olivier Lavoie. Les signes précurseurs, c'est si on a de gros changements pour ce qui est de notre alimentation, de notre humeur ou du sommeil. Il faut faire attention, surtout si ces changements surviennent dans des semaines plus faciles. Avec ces athlètes plus avancés, ils préconisent des séances de récupération active qui vont solliciter les muscles en douceur grâce à l'apport d'autres disciplines, natation, vélo, golf, randonnée. Pour Blaise Dubois, les coureurs les plus expérimentés auraient avantage à travailler l'économie de course. Tout en gardant le même niveau de VO2 max, consommation maximale d'oxygène, il sera ainsi en mesure de grappiller un temps précieux lors des courses. Ils peuvent faire de la pliométrie, de la musculation à charge lourde, courir pieds nus ou les exercices comme le talon-fesse. Ce sont des choses qui augmentent le dynamisme au sol. C'était « Envie de courir? Lancez-vous! » Un texte de Pascal Milano, paru le 15 juin 2024 dans La Presse.
Langues autochtones et réconciliation, qui fait le travail? Un texte de Marianne de Pelletot, paru le 28 septembre 2023 dans l'Express.ca de Toronto. De moins en moins d'Autochtones au Canada ont comme langue première parlée des langues autochtones. Pour certains spécialistes, la survie de celles-ci n'est pas assurée, malgré les efforts du gouvernement fédéral. En 2010, un rapport de l'UNESCO identifiait 86 langues autochtones au Canada, selon les données du recensement de 2001. Ces langues se trouvaient soit en situation vulnérable, en danger certain, sérieusement en danger, ou en situation critique. À l'époque, les langues en danger n'étaient parlées que par 10 % des locuteurs, l'autre 90 % ayant comme première langue parlée une langue autochtone viable. Aujourd'hui, le Canada enregistre un déclin continu du nombre de locuteurs. Selon le recensement de 2021, environ 237 420 Autochtones déclaraient pouvoir parler une langue autochtone assez bien pour pouvoir tenir une conversation, une baisse de 4,3 % comparativement à 2016. Le nombre d'Autochtones ayant déclaré une langue autochtone comme la première langue apprise à la maison durant l'enfance, a baissé de 7,1 % par rapport à 2016, et une hausse de 6,7 % a été enregistrée pour les langues autochtones comme langue seconde. Une réappropriation des langues autochtones. Selon Belinda Kakiyose-Daniels, professeure Niiyawa en éducation autochtone à l'Université de Victoria, en Colombie-Britannique, cette augmentation vient de locuteurs et d'apprenants qui se réapproprient la langue et qui la rapportent à la maison. Elle constate un développement lent, mais certain, de programmes de langue seconde, d'immersion et de cours de langues autochtones. Il y a un intérêt grandissant. Il y a aussi la récente loi sur les langues autochtones, ça va aider, assure-t-elle. On a aussi un commissaire aux langues autochtones et trois directeurs. Toutefois, on a besoin de politiques à travers le pays ou par province. Elle rappelle qu'en 2022, le Mi'kmaq est officiellement devenue langue d'origine en Nouvelle-Écosse. Selon la professeure, il faut plus d'occasions et d'expériences de ce genre dans chaque province. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement canadien pense que c'est si compliqué. Si tu vas en Europe, c'est très multilingue. Le Canada peut être de cette façon aussi. La loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale en juin 2019 et découle d'appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Maintenant, il faut de nouvelles politiques, des provinces, des conseils scolaires, des lois sur l'éducation qui aident à implanter la loi sur les langues autochtones, détaille Belinda Kakiyose-Daniels. La professeure indique également un besoin d'occasion et d'incitation lié à l'emploi où ces langues peuvent être employées. Manque de formateurs. Candidat aux élections provinciales manitobaines, Robert Falcon-Ouellet est professeur agrégé en éducation autochtone à l'Université d'Ottawa et membre de la Nation Cree Red Pheasant en Saskatchewan. Il explique que la perte d'une langue engendre une perte de fierté. Le monde se questionne s'ils sont de vrais autochtones. Ça fait 3 générations, nous ne vivons plus sur des réserves. Je suis autochtone, mais je ne participe pas, je ne suis pas pratiquant dans les cérémonies traditionnelles. Ils ont le sentiment de ne pas être de vrais participants dans leur propre culture. L'ancien député fédéral libéral est heureux de constater une initiative de conseil scolaire qui invite des aînés autochtones et des conseillers pédagogiques spécialisés sur les questions autochtones dans les écoles. Les aînés vont dans des classes d'école et font des présentations, parlent avec les jeunes, organisent des activités, parfois enseignent la langue, l'histoire, les enseignements traditionnels autochtones, la connaissance traditionnelle. Mais il s'interroge, qui forme ces intervenants? Il n'y a pas d'université ou de collège qui octroie un diplôme à un aîné pour dire qu'il est qualifié et qu'il sait de quoi il parle, rappelle le professeur. C'est la même chose avec les conseillers pédagogiques. Ils ont peut-être beaucoup lu sur les Autochtones dans des cours universitaires, peut-être qu'ils ont suivi un micro-programme. Ils peuvent démontrer dans les livres ce que sont les Autochtones, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment la vie ou les vraies traditions, les anciennes traditions des peuples autochtones? D'après lui, dans le cadre de la réconciliation, ça peut être très encourageant pour un jeune autochtone de constater qu'un non-autochtone a appris au moins quelques mots. Ça devient un moment important pour le jeune de dire que sa langue est importante et que lui aussi devrait la connaître. Mais la même question lui revient à l'esprit. Qui sont les enseignants qualifiés? Le pouvoir de la langue. Si tout le monde parlait sa langue autochtone, nous aurions un sens d'identité et de connexion à la terre, et nous serions capables de nous exercer avec souveraineté, affirme Belinda Kakiyose-Daniels. Selon elle, ça ne serait pas l'intérêt de la couronne britannique qui a longtemps tenté d'assimiler les peuples autochtones. Il y a une raison pour laquelle nos langues ont été attaquées, pour laquelle nos enfants ont été pris, volés, kidnappés et trafiqués, explique-t-elle. Ça nous a pris un moment pour nous relever et nous réapproprier qui nous sommes, et la langue est la chose la plus importante pour la nation. La chercheuse appelle le gouvernement fédéral, les provinces et les municipalités à davantage mettre en œuvre la loi sur les langues autochtones afin de les revitaliser, mais doute du travail effectué actuellement. La question que je me pose, c'est qui s'en occupe? Qui fait le travail? Parce que de mon expérience et de ce que je vois, de l'endroit où je suis, c'est principalement les Premières Nations qui font le gros du travail quand il s'agit de revitaliser nos langues. Le statut des langues autochtones. Les débats entourant le projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles, LLO, adoptée en juin 2023, ont laissé place à une discussion sur la place des langues autochtones dans le préambule de cette loi. La sénatrice inou-québécoise Michèle Audette a proposé des amendements de reconnaissance des langues autochtones dans la nouvelle loi sur les langues officielles. Ces propositions d'amendements ont été rejetées, n'ouvrant pas la porte vers un statut plus officiel pour les langues autochtones. La langue est ce qui nous donne notre identité, notre culture, notre relation à un territoire, nos responsabilités, une histoire, une vie contemporaine et nos aspirations pour demain, avait déclaré la sénatrice lors de la troisième lecture du projet de loi C-13 au Sénat le 15 juin 2023. Je suis convaincu que dans 10 ans, les langues autochtones seront ajoutées comme langues officielles, avait-elle dit. Le fait qu'il y ait la loi sur les langues autochtones est encourageant. Cependant, les droits et pouvoirs ne seront pas égaux à ceux que possèdent les langues officielles. L'esprit de la langue. Pour Belinda Kakiyose-Daniels, la langue n'est pas juste un moyen de communiquer, mais aussi un moyen de comprendre le monde dont nous faisons partie. Elle explique que plusieurs termes de langue crie font référence à des éléments de la nature comme « miskik » pour les yeux et « kizik » pour le ciel. La langue reflète alors le rapport à la nature. Nous faisons partie de la nature. Les colons croient posséder la nature. Apprends une langue autochtone et tu apprendras une autre vision du monde quand tu vois l'environnement. Tu comprendras que cet arbre, cette montagne, sont des esprits vivants, dit-elle. Apprendre une langue autochtone aide à découvrir cette manière de voir le monde et d'être connecté à lui. C'était « Langues autochtones et réconciliation » qui fait le travail, un texte de Marianne Despelleteaux, paru le 28 septembre 2023 dans l'express.ca de Toronto.